Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Ronaldine Tibodera.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez entendu, je n'ai que 20 minutes pour vous informer à la une de cette édition. Les territoires d'Arouane-Itouri et les nouvelles Eldorado des criminels, c'est hors la loi, dont certains venus du Soudan du Sud sont soupçonnés des pratiques criminelles dans une zone où les effectifs sécuritaires restent insuffisants. Joli coup de filet pour les services de l'ICCN et ses partenaires au Nord Kivu. Ils ont réussi à mettre la main sur trois présumés criminels impliqués dans le trafic des 30 kilos d'ivoire et d'une peau des lions à Beni, un geste fort salué par les défenseurs environnementaux. En RDC, l'organisation d'un dialogue national intéresse plus d'un. Ce projet annoncé par la présidence est sur toutes les lèvres et suscite déjà la controverse. Hier soir, l'émission Dialogue entre Congolais s'est penchée sur cette initiative en analysant son importance en pareille période. Un extrait est à suivre dans la rubrique Invité. Place maintenant au détail avec la province de l'Ituri où les notables et les acteurs de la société civile du territoire d'Arou appellent le gouverneur de province à renforcer les mesures de sécurité face à la recrudescence de la criminalité aux incursions d'hommes armés venus du Soudan du Sud. Dans une lettre adressée à l'autorité provinciale, il demande également l'organisation rapide de procès de présumés bandits déjà arrêtés afin de lutter contre l'impunité. Isaac Remoyope.
Depuis le début de l'année, le territoire d'Arou est confronté à une recrudescence de la criminalité, notamment dans la cité d'Arou et au centre commercial d'Ariwara, situé à environ 350 km au nord de Bounia. Selon les notables et les acteurs de la société civile, plusieurs cas de vols à main armée et de braquages visant principalement des commerçants ont été enregistrés ces derniers mois. Un policier figure notamment parmi les victimes. Par ailleurs, dans les chefferies de Kaliko au milieu de Kakwa, à la frontière avec le Soudan du Sud, des hommes armés franchiraient régulièrement la frontière pour piller les biens de la population et enlever les civils, toujours selon les mêmes sources. Plusieurs dizaines de personnes avaient été kidnappées au mois d'avril dernier. Les signataires de la lettre attribuent cette situation au faible déploiement, voire à l'absence des FARDC dans certaines zones frontalières. Ils demandent au gouverneur de faire de la sécurité une priorité de son action en renforçant la présence des forces de défense le long de la frontière. Ils appellent également les autorités judiciaires à organiser sans délai les procès des présumés bandits déjà interpellés afin de lutter contre l'impunité et de dissuader les réseaux criminels. Le gouvernorat de l'Ituri n'a pas encore réagi à ces préoccupations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours en Ituri, le carré minier de Mambaou, dans le territoire de Mambasa, a de nouveau été visé par les terroristes de l'ADEF. Selon des sources locales, lundi, les assaillants ont incendié plusieurs habitations avant de piller les biens commerciaux. Plusieurs civils auraient également été pris en otage, mais leur nombre exact n'est pas encore connu. Cette attaque survient quelques jours seulement après une autre incursion attribuée au même groupe armé à TP où plusieurs maisons avaient été incendiées. Face à cette recrudescence des violences, les acteurs locaux appellent les habitants des villages des Biloulou, Dela, Nyanza, Dar es Salaam et Angola à faire preuve de vigilance. Ni les autorités administratives ni les responsables militaires dans la zone n'ont pour l'instant réagi à cette information. Nous revenons ici à Kinshasa où un conducteur de moto-taxi est mort électrocuté mardi à la place Force Publique dans la commune de Kassavubu. Selon des témoins, le drame est survenu après une altercation avec des agents du service des transports. Lors de l'intervention de la police venue calmer la tension provoquée par la mort du motard, une femme a également été blessée par balle. Ce drame a suscité colère et indignation parmi les habitants et les conducteurs des moto-taxis qui réclame un meilleur encadrement du contrôle des documents de bord dans la capitale. Des détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces faits se sont produits vers 11h de ce mardi. Des agents des services des transports ont intercepté un taximan moto alors qu'il transportait une cliente. D'après les témoins, les motards avaient présenté tous les documents de bord. Malgré cela, ces agents auraient continué à les retenir et lui auraient réclamé de l'argent. Il menaçait même de confisquer sa moto et de l'emmener au poste de police d'à côté. Une dispute a alors éclaté entre ses conducteurs et les quatre agents. Au cours de l'altercation, les motards ont été poussés dans un caniveau où passé un courant électrique et du coup, il est mort électrocuté sur place. La nouvelle de son décès a rapidement provoqué la colère des autres motocyclistes. Des actes de vandalisme ont été signalés, notamment contre un poste de police et plusieurs boutiques situées près du lieu du drame. Un taximan moto a appelé les autorités de la ville à mieux organiser les opérations de contrôle des documents de bord afin d'éviter de tels drames dans l'avenir.
Que l'hôtel de ville, comme le ministre des Transports, puisse s'associer pour organiser des obsèques dignes pour notre camarade et dédommager sa famille. Car la victime effectuait son travail pour vivre à la sueur de son front. L'État ne nous soutient pas, alors que, avec nos taxes et autres.
L'incident relance également les débats sur la multiplication des services chargés de la régulation des transports dans la capitale congolaise.
Au Nord Kivu, une opération conjointe menée par l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN et ses partenaires a permis le 17 juillet 2026 à Beni la saisie de 25 pièces d'ivoire d'éléphant d'un poids total de 30 kg ainsi que d'une peau de lion. Au moins trois présumés trafiquants ont été arrêtés et remis aux autorités judiciaires. Selon l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme ACDH, cette affaire illustre l'ampleur des menaces qui pèsent sur les espèces protégées dans la région. Son secrétaire exécutif appelle au renforcement des coopérations entre les institutions publiques, les organisations de la société civile, les services de sécurité afin de prévenir davantage les braconnages et les trafics de la faune sauvage dans un contexte marqué par l'insécurité. Maître Olivier Ndolé est joint par Bernard Nyangui.
Encore une fois, cette saisine démontre qu'il y a un lien entre le trafic illicite, l'exploitation de notre biodiversité et la fragilité du territoire dans le contexte des conflits et des guerres. Parce que tous ces trafiquants, leur objectif, c'est juste de se faire l'argent à travers des commerces illicites. Et à contrepartie, tous les groupes armés se nourrissent de ces activités illicites. Mais également, on ne doit pas seulement agir en saisissant les spécimens. Mais l'essentiel serait de prévenir pour que ces spécimens, par exemple les éléphants abattus, les lions tués, je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler en amont pour réduire les braconnages et cela passe par cette collaboration entre communautés, sociétés civiles, pouvoirs judiciaires mais aussi forces de sécurité, les services aux frontières, les services aéroportiers puissent être vigilants et prévenir des cas futurs de trafic mais aussi des braconnages.
Merci de nous suivre à Bunia où il est 7h passées de 7 minutes. Face à la montée des cas, les organisations de la société civile à Ituri veulent renforcer leur engagement dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ces dernières misent sur la sensibilisation de communautés afin de combattre la désinformation, réduire les résistances et encourager l'adoption de mesures de prévention. Réunies mardi à Bunia avec leur coordination provinciale, les équipes de Riposte se sont engagées à accompagner cette initiative. Isaac Remoyope nous en dit plus.
L'épidémie d'Ebola continue de progresser en Ituri où 27 des 36 zones de santé sont désormais touchées. Pour les organisations de la société civile, le faible engagement des communautés reste l'un des principaux obstacles à la riposte. Selon elles, certaines personnes continuent de nier l'existence de la maladie ou hésitent à collaborer avec les équipes de santé, ce qui favorise la propagation du virus. Dieudonné Lossa appelle à renforcer la sensibilisation des proximités afin d'obtenir une plus grande adhésion des communautés.
Jusqu'à 16 il y a encore des résistances. Beaucoup de malades se cachent dans la communauté et le taux de mortalité ne cesse de croître. Nous pouvons contribuer pour arrêter la transmission, diminuer le taux de mortalité, briser la résistance.
Le coordonnateur provincial de la riposte contre Ebola, Pierre Akelimali, salue cette démarche. Il estime que l'implication de la société civile à raison de sa proximité avec la population contribuera à améliorer l'efficacité de la riposte.
La société civile est plus proche de la communauté. Nous pensons casser les barrières, améliorer la confiance entre l'équipe de la riposte et la population et couper la chaîne de transmission et espérer le plus rapidement possible contrôler cette maladie.
La société civile de l'Ituri a présenté un plan de sensibilisation de 3 mois destiné à renforcer la mobilisation communautaire. communautaire contre l'épidémie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous quittons Bounia pour nous rendre à Kindu où les nutritionnistes sont à l'école de formation autour de l'alimentation des nourrissons. Plus d'un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre de malnutrition chronique. Nous sommes au Maniema. Selon une enquête nutritionnelle réalisée en 2024, les taux de prévalence atteint 52,4%. Pour renforcer la lutte contre ces problèmes, les nutritionnistes participent à Kindu à une formation de 5 jours consacrée à l'alimentation du nourrisson, du jeune enfant et à la nutrition communautaire. Une initiative qui est organisée ou portée par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Reportage de Florence Kizalunga.
Pendant 5 jours, les participants seront formés sur la prise en charge nutritionnelle durant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. C'est ce qu'explique David Nzengu, conseiller en genre, ciblage et inclusion sociale au PADRI.
Cette activité de formation des formateurs a été planifié, c'est pour répondre à un problème, à un défi après avoir réalisé en 2024 une enquête nutritionnelle qui a relevé que la prévalence de la malnutrition chronique est très élevée dans notre zone d'intervention. C'est ainsi qu'avant de mettre le paquet d'interventions en nutrition, nous avons préféré d'abord commencer par le renforcement des capacités.
Présent au lancement de la formation, le ministre provincial de la Santé espère que cette initiative contribuera à réduire les taux de malnutrition dans la province. Docteur Alexis Chomba.
Vous savez qu'il y a plusieurs années qu'on n'a pas pu organiser déjà des formations dans notre province depuis 2015. Et nous, en tant que d'abord ministre de la Santé, nous saluons la tenue de cette formation parce que ça va peut-être réduire les taux de la malnutrition dans la province.
À la fin de cette formation, les participants auront pour mission de former à leur tour d'autres prestataires de santé dans différentes zones de santé du Maniema. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Lubumbashi, les vendeurs du marché Mzé Laurent-Désiré Kabila s'opposent à tout projet de démolition de leur marché. Ils l'ont exprimé lundi lors d'une manifestation organisée dans les rues de la ville. Pour faire entendre leurs revendications, ils se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les manifestants disent craindre d'être dégarpis après avoir appris que les autorités urbaines envisageraient de raser les installations actuelles afin de construire un marché moderne et sur le même site. Une perspective qui suscite de vives inquiétudes parmi les commerçants, lesquels redoutent de perdre leur principale source de revenus. Le point avec Paulin Munanga.
Le marché Mzé Kabila, construit en 1997, est l'un des plus grands marchés de Lubumbashi. Il est situé sur l'avenue Lumumba au centre-ville et compte plus de 17 000 vendeurs à en croire certaines sources. Les commerçants scandaient des chansons brandissant des pancartes dénonçant la décision de démolition du marché Mzé Laurent-Désiré Kabila. Ils se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils ne sont pas contre la construction des marchés modernes, mais ils proposent aux autorités de construire ce nouveau marché sur un autre site au lieu de détruire le marché Mzé Kabila. Devant les questeurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ils ont lu leur mémorandum dans lequel ils demandent aux élus du peuple de trouver une solution à ces dossiers.
Le marché Mzé Kabila compte plus ou moins 17 000 vendeurs qu'ils ont investis dans leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille par manque d'emploi. Sa destruction occasionnera la perte de milliers d'emplois et une grande précarité pour des centaines de ménages. Nous demandons l'ouverture d'un dialogue entre les autorités provinciales au tabac et les représentants des commerçants afin de trouver un terrain d'entente.
Le questeur Ahmed Moukouna les a rassurés que leurs revendications seront examinées au sein de l'organe délibérant. Aucune réaction pour le moment de la mairie de Lubumbashi. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Merci Paulin, je vais devoir me rendre à Kananga où nous attend André Katende. Mieux enquêter pour mieux rendre justice. 60 officiers de la police judiciaire, OPJ, dont 10 femmes, ont achevé une session de formation à Kananga. Cette initiative fait suite aux nombreuses insuffisances constatées dans la conduite des enquêtes et les traitements des dossiers judiciaires. L'objectif est de contribuer à une justice plus efficace, plus professionnelle et plus respectueuse des droits des citoyens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise avec l'appui financier et logistique du programme des Nations Unies pour le développement tel qu'elle est dit ici André Katende.
Pendant 20 jours, les 60 officiers de la police judiciaire ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur plusieurs thématiques essentielles à l'exercice de leurs fonctions. Au programme, techniques d'enquête, procédures pénales, droits humains, lutte contre les violences basées sur le genre et déontologie policière. Alain Kateta, chef du bureau du PNUD à Kananga, explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police. Selon lui, elle vise à améliorer la qualité du travail des officiers des polices judiciaires, à renforcer l'efficacité du système judiciaire et à consolider l'état de droit.
On a constaté qu'il y a plusieurs officiers des polices judiciaires qui ont beaucoup de difficultés dans les enquêtes qu'ils sont en train de mener.
Au terme de cette formation, les participants affirment avoir acquis de nouvelles connaissances et des outils pratiques qu'ils comptent mettre au service de leur mission. Jacques Pouy.
On avait un peu de manquement, mais à partir de cette formation, ça nous a un peu aidé à connaître d'autres choses. Comme on a renforcé les capacités, nous allons faire notre travail en bonne et due forme.
Présente à la cérémonie de clôture, les autorités judiciaires ont invité les bénéficiaires à mettre en pratique les enseignements reçus, exercer leurs fonctions dans le strict respect des droits des citoyens. Kananga, André Katendengala Moulumi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La principale agence de santé publique du continent africain, CDC Afrique, a déclaré mardi qu'elle n'était pas favorable aux interdictions de voyage en réponse à l'aggravation de l'épidémie d'Ebola sur les continents et a exhorté les États-Unis à lever les restrictions imposées à l'Ouganda. L'appel intervient quelques jours après que Washington a renforcé les restrictions de voyage liées à l'épidémie actuelle d'Ebola qui a pris naissance en RDC à l'encontre de voyageurs en provenance de la RDC, de l'Ouganda et des Soudans du Sud.
L'invité.
Le président de la République démocratique du Congo a échangé vendredi dernier avec les confessions religieuses du pays. Au cours de cette rencontre, Félix Tshisekedi a annoncé à ses invités que le dialogue national inclusif sera organisé. À l'issue de cette audience, les confessions religieuses ont entamé des consultations auprès des différentes couches de la nation, tandis que la classe politique a commencé à réagir à cette information. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir se sont exprimés sur cette initiative. Écoutons-les dans cet extrait. Au micro de Donat Madimba.
Jean-Bédéle Yoka.
Le problème, de notre point de vue, nous redisons ce que nous avons dit, n'est pas tant le dialogue qui est convoqué, ni de qui participe au dialogue. Mais c'est parce que tous disent c'est au nom du peuple. Tous disent que c'est aux fins de la stabilité des institutions de la République. L'État étant fragilisé du fait de crises multiformes. Donc, et c'est à cela que je ne partage pas tout à fait une partie de la première intervention de l'honorable Moindo, tout en rencontrant la deuxième partie, c'est que nous devons vouloir une chose et être cohérents jusqu'à sa fin. Nous sommes en démocratie. Disons que nous restons cohérents par rapport à l'ordre institutionnel qui a été mis en place.
Encore 30 secondes. Oui, puisque nous sommes en train de conclure
l'émission. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, s'engager ou considérer la possibilité ou la nécessité d'un partage éventuel de pouvoir veut dire participer avec le pouvoir en cours dans la gestion de son mandat. Mais il faut, de l'autre côté, anticiper la réaction d'eux autres. La conséquence serait la remise à carreau de l'ordre existant, et donc nous repartirions et contre l'ordre institutionnel que nous sommes tous en train de chercher à préserver. C'est comme ça que nous disons, dans le cadre du manifeste de Kasangulu, véritablement, nous devons pouvoir engager le sacrifice pour lequel nous déclarons tous, rechercher. Ça veut dire, on se bat pour le peuple et nous allons clarifier des questions qui ne vont pas, les redresser et prendre des engagements pour que cette fois-ci, pour que ce dialogue soit différent des autres, merci, que nous puissions en sortir avec une orientation nouvelle.
Merci, voilà, à vous.
Sinon, on aurait un nouveau gouvernement et puis, finalement...
Et recommencer éternellement. Merci. Jean Bédel, Yoka, merci. Et Christian Mwando, justement, et nous sommes en train de conclure en une minute sa préoccupation et la dernière pour l'émission, puisque ça ne sera pas facile pour le moment, tout n'est pas encore totalement bien peaufiné et bien assemblé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que vous vous rapprochiez toujours davantage avec le côté opposé pour réussir le dialogue et éviter justement que ça s'éternise et qu'on débouche par une souris, comme on dit souvent?
Bon, je pense que si nous allons tous dans ce dialogue inclusif, en nous considérant d'abord comme frères et en considérant que le Congo est notre héritage commun et que nous devons le léguer entier et prospère à nos enfants, comme nous l'ont légué nos parents, je crois que nous pouvons aller de l'avant.
Merci à vous, Christian Mwando, Lambert Mende. En quelques secondes aussi, les dialogues des Congolais ont souvent tendance à s'éterniser. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous pensez qui sera mis en place pour qu'il se réalise réellement et qu'il débouche sur quelque chose de durable dans le futur?
Pour moi, il y a un espoir à voir la façon dont les choses se sont mises en place après toutes ces petites polémiques qui nous ont divisés ici et là, que ce soit quelque chose qui vienne des Congolais, puisque même la Conférence nationale souveraine est le produit du discours de la Baule. C'est la France. C'est la France-Afrique, c'est Mitterrand. Et Mobutu a attrapé au vol et a décidé d'obéir pratiquement au mot d'ordre du grand chef blanc. Cette fois-ci, nous avons quelque chose, et le reste, Sun City, c'était l'Afrique du Sud, etc. Maintenant, nous avons quelque chose qui vient de nous-mêmes, une dynamique interne.
Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre premier rendez-vous avec l'actualité sur Radio Okapi. Clin d'œil spécial à Dieudonné Nyangasa qui est la partie technique, René Linti Bonera et Diamine. C'était bien moi la présentation.